Troisième heure, on va finir cette heure avec Christian Page, notre enquêteur du paranormal. On va parler également à une dame qui est tombée follement amoureuse et qui pensait vraiment vivre une vraie histoire d'amour. Et elle s'est investie beaucoup là-dedans. Elle a été déçue. Elle a réalisé que finalement, c'était une illusion. Mais il y a des choses à apprendre là-dedans. J'ai hâte de lui parler. On va parler aussi... c'est quoi l'autre sujet? Ah oui. Sur Zoom. Vous savez que sur Zoom, il y a plein d'incidents qui se produisent. Du monde qui se font prendre des fois dans des positions compromettantes. Ils sont en train de faire, mettons, un appel conférence. Ils oublient d'enlever le son ou ils oublient d'enlever l'image. Ils pensent qu'ils ne sont plus regardés par les autres qui sont sur l'appel conférence. Et là, ils font toutes sortes de choses puis ils se font prendre. C'est assez cocasse dans certains cas. Mais d'abord, tel que promis, la phase 2 de notre préparation au dernier grand débat entre Trump et Biden. Je vous présente Valérie Beaudoin, la conseillère de Donald Trump.
Oui.
Parce qu'on a décidé de jouer un petit jeu. Tu es la conseillère de Trump. Et Luc Lavoie, bonjour.
Bonjour.
Tu es le conseiller de M. Biden.
Oui.
Alors, la dame d'abord, oui. Mme Beaudoin, vous allez nous dire comment vous préparez votre poulain ce soir, votre candidat, les deux ou trois conseils que vous lui donnez.
Alors, je vais faire même ma journaliste sportive. Je vais lui dire de regarder les tapes, alors les vidéos de Mike Pence en débat et oui. de s'inspirer de ça pour marquer des points. Parce que Mike Pence, il a beau avoir plusieurs défauts par rapport à Trump au niveau du charisme ou autre, mais c'est quelqu'un de solide pour présenter ses arguments de façon calme, précise. Et même si c'est quelque chose qui peut aller contre des convictions, il les présente avec tellement de facilité que c'est plus facile de convaincre. Ça, c'est la première des choses. Donc, au niveau du ton...
Donc, un ton moins hargneux, moins agressif que le premier débat.
Oui.
Plus respectueux, donc plus présidentiel.
Exactement. Et là, j'y vais, bon, ça arrivera pas, mais au moins essayer de ressembler un peu à ce que son vice-président fait. Ça,
d'accord.
C'est le côté Mike Pence.
Oui.
Et deuxièmement, d'attaquer Joe Biden où ça fait mal. Parce que oui, il y a des endroits ou des sujets où c'est plus facile d'attaquer Joe Biden. Le premier sujet... Son fils, c'est sûr, Hunter Biden, il peut en parler, mais de pas s'éterniser là-dessus parce qu'on a vu que l'histoire du New York Post où il y a des allégations entourant Hunter Biden, je reviendrai pas sur tout ce sujet-là, ça a passé un peu dans le beurre. Comme on dit, pour plusieurs Américains, on s'est pas intéressé à l'histoire, donc c'est pas ça qui est important. Parlons de la Cour suprême parce que Biden n'a pas de réponse à savoir si lui il va décider d'ajouter des juges à la Cour suprême, et il y a une majorité d'Américains qui sont contre. Alors, c'est pas juste démocrates ou républicains, les gens sont contre ça, et on baragouine un peu une réponse à chaque fois qu'on est conseillé là-dessus ou qu'on leur demande.
Il est évasif.
Ouais. Exactement. Alors, ces points-là, je pense
alors,
que c'est important.
Alors, l'idée, juste pour qu'on se comprenne bien, l'idée de ce scénario-là, c'est, actuellement, c'est quoi, 9 juges à la Cour suprême, c'est ça? Et il y a un scénario dans l'air, comme il risque d'y avoir, grosso modo, là, on arrondit, là, mais 5 juges républicains, sinon 6 contre 3 démocrates. L'un des scénarios qui a été évoqué, c'est de dire, au lieu de garder ça à 9, on pourrait monter ça à 10, à 11, et vous pourriez nommer des nouveaux juges.
Oui. Hein,
démocrates, enfin progressistes, on va dire, bon, whatever. Et puis là, donc, ça serait une manière de rééquilibrer les affaires, et tu nous dis que les Américains n'en veulent pas de ce scénario-là.
Non, parce qu'imaginez, à chaque élection, si on rajoute 3 juges à la fois, mais là, ça va finir à quand? Les républicains vont le faire aussi. Bref,
d'accord.
Ça, c'est un des arguments, donc, je pense, de
donc,
choix.
Donc, M. Trump, attaquer Biden là-dessus.
Oui.
OK, très bien. Bon, Luc Astor, toi, tu conseilles Biden. Tu lui dis quoi ce soir-là?
De garder son calme comme il l'a fait la dernière fois. De ne pas mordre aux hameçons de type Hunter Biden, d'essayer de banaliser ça. Mais moi, je pense que Biden a fait une erreur aujourd'hui, justement sur le thème que vous étiez en train de discuter, toi et Valérie, la question des tribunaux. Aujourd'hui, M. Biden a annoncé, il a dit, je le cite, « Si je suis élu, je mettrai en place une commission nationale bipartisane avec des universitaires, des spécialistes, blablabla, pour revoir, pour, en 180 jours, se prononcer sur une réforme des tribunaux. » Je pense que c'est une grave erreur. Je pense qu'il n'aurait pas dû s'en aller dans ça. Et je pense que Trump a une grosse poignée sur lui.
Pourquoi? Dis-moi pourquoi.
Ben, parce que...
Ça fait pas présidentiel, ça fait « je prends pas de décision », c'est ça? J'ai pas de leadership?
Non, ça fait plutôt à la limite République de bananes. J'aime pas la façon dont l'exécutif a pourvu les postes vacants de juges à tous les niveaux, là, juges fédéraux, juges d'appel et tout ça. Bon, maintenant, on n'est pas d'accord avec ceux qui ont été nommés. Ben, qu'est-ce que tu veux? Les gens sont là, ils disent, mais qu'est-ce qu'il prend? Il veut-tu ajouter 3-4 membres à la Cour suprême? Il veut-tu en ajouter à d'autres postes? C'était une erreur de sa part. Il va falloir qu'il y ait des réponses très, très claires, Biden, là-dessus, ce soir. Maintenant, là où Biden est très fort, c'est pour tout ce qui concerne la COVID. Ne nous faisons pas d'illusions. À l'heure actuelle, l'enjeu principal, c'est la COVID. Et là-dessus, tu sais, Trump a dit des insultes, a proféré des insultes incroyables à l'égard de Fauci. Il a même dit, si vous élisez Biden, Biden, comprends-tu, il va écouter les scientifiques. Il y a du monde qui disent, ben merci beaucoup, M. Trump.
Toi, tu penses que, donc, si t'es Biden ce soir, t'attaques Trump sur sa gestion de la COVID?
Ah ben oui, j'y rentre dedans, mais pas à peu près, là.
Puis comment tu te défends, toi, Valérie, que tu vois venir, évidemment, conseilles, t'es toujours la conseillère de Trump.
Toujours.
Tu sais que Biden va attaquer là-dessus, c'est quoi ta défense?
Et je me prépare mieux que la dernière fois, parce que j'ai l'impression que la défense, la dernière fois, juste de dire que Biden n'était pas d'accord de fermer les frontières avec la Chine, à un moment donné, ça fait plusieurs fois qu'il répète. Donc, d'essayer de dire qu'écouter les spécialistes, de moins attaquer Fauci, d'être moins là-dessus et de dire surtout qu'il est là pour les Américains et qu'il va être là surtout pour la relance économique, parce qu'il y a beaucoup d'Américains pour qui ça compte, ce côté-là, de justement, ils ont tout perdu avec la COVID, les commerces.
C'est vrai que l'économie allait bien sous Trump avant la COVID, donc il a une crédibilité, Trump,
exactement,
en matière d'économie.
Ouais, donc, peut-être prendre cette poignée-là, ça serait plus intéressant.
C'est intéressant, oui. Vas-y, Luc.
Mais en même temps, il va falloir qu'il soit très prudent dans ses attaques sur Hunter Biden, parce que vous avez vu l'efficacité avec laquelle Obama a récupéré l'affaire du compte bancaire secret en Chine, où il aurait payé plus d'impôts qu'aux États-Unis. Et c'est une grosse poignée. Puis en plus, à mesure qu'on avance, les gens de son entourage, là, vraiment ceux qui sont proches de lui, ont l'air de plus en plus imbéciles. C'est le cas présentement de Rudy Giuliani, son avocat.
Raconte-nous ça.
Ben là, Borat, je sais pas si vous avez aimé le film Borat autant que moi, je pense que c'est un des films les plus drôles que j'ai jamais vu.
Oui.
Il sort demain sur, je pense, c'est Amazon.
C'est Amazon, Amazon Prime, oui. Oui. Ouais. Oui.
Alors, une deuxième version, c'est d'ailleurs comme ça que s'appelle le film, et dans ça, ils ont pincé Rudy Giuliani, soi-disant on faisait une enquête, c'était une journaliste. Parce que tu vois, c'est un film qui se donne des allures de documentaire, ce qu'il n'est pas.
C'est ça.
Puis là, j'ai vu l'image, c'est incroyable l'image, là. T'as une femme devant lui, puis il est couché sur le lit, puis il a la main dans ses pantalons exactement à l'endroit où tu peux imaginer. Comme si, excuse-moi l'expression, comme s'il se zigonnait. Ça a l'air...
Rappelez-vous, là, Giuliani, l'ancien maire de New York, c'est l'avocat actuel, l'avocat de Trump à la Maison-Blanche. Et donc, il se fait prendre, dans le fond... C'est une parodie, sauf que Giuliani le sait pas. Il pense qu'il a affaire à une vraie journaliste. Et dans le fond, il retourne dans sa chambre d'hôtel, dans le film, là, qui est une espèce de film documentaire, si on peut dire.
Une satire politique. Moi, je dirais même c'est plus
politique.
Ça, parce qu'il y a un côté, il y a un côté de vérité. Et ce qui est intéressant, c'est que cette fille-là, la fameuse journaliste, c'est la fille de Borat dans le film, et lui va aux États-Unis pour la marier à un riche républicain. Fait que dans le film, il essaie même de la vendre, entre guillemets, à Mike Pence. Ça, on va voir des images aussi où il est déguisé, Borat, en Donald Trump, avec une fausse femme sur les épaules et qui court à CPAC, la convention conservatrice, devant Mike Pence.
C'est complètement disjoncté, mais l'image de Giuliani, puis la scène, elle est réelle.
Et
Giuliani, il joue pas un rôle, il joue lui-même.
Non, exactement.
Il pense, je l'ai pas vu, là. L'interprétation, c'est qu'il pense qu'il va avoir du sexe avec la jeune femme, là. C'est ce qu'on comprend.
Ben c'était ça que ça a l'air.
Oui, mais lui, il dit, il se défend parce que c'est la fin de l'entrevue avec la dite journaliste et qu'il replaçait sa chemise dans ses pantalons. Mais ça, c'est l'histoire.
Il descend très profondément sa queue de chemise.
Oui, puis pas juste ça.
On sait pas quel genre
ça,
de chemise il avait, là.
Mais il était couché sur le dos, lit, là. Tu sais, c'était pas pour sa chemise.
C'est pas chic, comme dirait l'autre. C'est pas chic, pas en tout.
Alors, faut que Trump fasse attention parce que Biden est bien capable, sur un ton très doux, d'y ramener ça sur le nez. Écoutez, je vous écoutais, vous écoutez concernant Hunter Biden. C'est Rudy Giuliani qui est derrière ça. Est-ce que c'est le même gars qu'on voit dans le film, là?
Ouais.
Parce que là, c'est gros aux États-Unis, cette histoire-là. Ça se promène, là. Borat à ne pas manquer. J'ai super hâte de le voir. C'est drôle, Borat, c'est incroyable.
Oui. Alors, l'heure du débat ce soir?
21h jusqu'à 22h30, donc le même format, mais les micros vont se fermer, alors...
Oui, mais par contre, raconte, vite, 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 là. Oui. Il y a quelqu'un du camp Trump qui a dit, c'est pas parce que le micro est fermé que... Que quoi?
En fait, Donald Trump Jr. à Fox aujourd'hui a dit ce matin, il a dit, écoutez, oui, il y a un moment pendant 2 minutes où on va fermer le micro à mon père parce que, bon, pour pas que ça soit interrompu, mais d'ici, Biden dit des atrocités, nous, on va surveiller comment ça se passe dans la salle et il va y avoir quelqu'un d'attitré pour réagir. Réagir donc, de quelle façon? Est-ce qu'il va applaudir, crier?
Se lever debout avec un mégaphone?
On sait pas ce qui va se passer, mais eux disent déjà que c'est biaisé et que finalement, la modératrice de NBC est à la solde des démocrates, donc c'est déjà ça part mal. Donc, ils ont mis la table en disant que c'était, oui, un débat auquel Donald Trump va participer, mais qui vaut rien, le débat, parce que c'est décidé d'avance que les démocrates vont avoir l'avantage.
Et on se donne le droit de faire virer ça en cirque.
On va voir ça ce soir.
Hein? On verra ça.
Ah, ça va être du grand entertainment.
Bon, alors, Valérie Beaudoin, on risque de se reparler demain.
Ça va me faire grand plaisir.
Avec des extraits du débat.
Voir si on a eu des bonnes stratégies, Luc et moi.
Exactement. On va voir lequel des deux a été le mieux conseillé, parce que c'est certain que vos trucs ont tous... Oui. C'est sûr que ça s'en va tout.
Ça s'en va directement à Maison-Blanche.
C'est clair. Dans le cas de Valérie, ça s'en va à Maison-Blanche. Oui. Dans ton cas, à toi, Luc, ben ça s'en va. Je sais pas où ce qu'il est, lui, là, Biden. Est-tu au Delaware, là, Biden?
Je pense qu'il est au Tennessee, si ce soir ça a lieu.
Bon, OK, d'abord. Merci, Val.
Ça me fait plaisir.
Luc, il nous reste quelques minutes. Parce qu'on s'était dit que tu prendrais quand même quelques minutes pour nous rapporter 2 ou 3 informations importantes par rapport à la COVID, parce que c'est le moment de l'émission où tu fais un peu le tour de la COVID. Alors, mettons 2-3 choses importantes qu'il faut noter, là.
Catastrophe en France. Le premier ministre a souligné aujourd'hui, le premier ministre Legault, qui avait 410, je parle de Legault qui a dit ça aujourd'hui, 410 cas par million d'habitants comparé à chez nous qui est à 122.
Oui.
En France, ils vivent une catastrophe et là, un couvre-feu nocturne qui était déjà en place à Paris et dans quelques villes vient d'être imposé à peu près à la grandeur du pays, en fait, dans 38 régions urbaines. Okay. C'est quand même incroyable. L'Allemagne, qui s'en était plutôt bien sortie dans la première vague, la situation, et je cite les propos du directeur de la santé, est devenue globalement très, très grave. Les infections journalières ont atteint dans les 24 dernières heures 11 287 cas supplémentaires. Alors, l'Allemagne, c'est comme... Wow, ça fait mal énormément. Et si vous regardez, bon, en Allemagne, évidemment, en France, dans 2 régions d'Italie où on impose aussi un couvre-feu, en Irlande, le pays est sous confinement total. Et voilà, c'est comme ça que ça se présente à l'heure actuelle, la COVID.
T'as pas grand bonne nouvelle à nous communiquer sur le front de la COVID, mon ami Luc, là? Hein?
Non, puis écoute, je dois te dire que je suis très surpris par la force de la deuxième vague. Je suis pas sûr que j'étais, même si on avait lu abondamment, on en avait parlé. Mm. C'est incroyable si ça frappe, hein? Ça frappe mondialement et... Va-t-il y avoir une troisième vague? J'ai hâte au jour, tiens, je vais terminer là-dessus, Bernard, où le docteur Arruda ou le premier ministre Legault ou un de ceux-là va nous dire quand est-ce que ça va finir, cette pandémie-là? C'est bien facile de dire avec un vaccin, là, mais quand est-ce que ça va finir? Combien de confinements d'affilée devrons-nous subir? Ouais. Il faut à un moment donné qu'on voit une fin à ça, tu comprends?
Ben oui, qu'on ait une lueur.
Scientifiquement, est-ce qu'on peut nous dire scientifiquement c'est quoi le scénario le plus probable pour la fin de la pandémie?
Oui. Moi, je vais dire, mon ami Luc, qu'ils me disent, là, qu'ils m'annoncent qu'on a un médicament, pas un vaccin, parce que je pense qu'on va avoir un médicament avant un vaccin, là, mais j'ai hâte qu'on nous dise qu'il y a un médicament qui est assez efficace, qui diminue les symptômes, qui diminue les décès. Ça, j'attends ça, là. Et puis le vaccin, évidemment, on a hâte qu'il arrive, là. Mais tu lis comme moi une couple de journaux par jour, là. Je dis, un vrai vaccin sérieux, accrédité, il n'y a pas personne qui parle de ça avant Noël, là, t'as remarqué,
non,
hein?
Certainement pas avant Noël, même si au Venezuela, tout ça, il y a quelques bébelles, là. En gros, on verra pas ça dans nos pays avant, à mon avis, le printemps.
Très bien, Luc, je te souhaite une belle fin de journée. On se reparle demain?
À demain, Bernard.
Après la pause, on va parler avec Pauline. Pauline, elle a 70 ans passé, Pauline. Et puis là, elle va vous raconter une histoire qui lui est arrivée. Restez à l'écoute.